Chelou.
Du sport pour commencer cette semaine avec les trials de la Tahiti Pro qui se sont déroulés dimanche. Nous resterons en mer pour vous parler de ses recherches ces derniers jours au Fénois. Mais avant tout ça, on vous parle de la rentrée. Et ce journal, justement, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Il ne reste qu'une semaine avant le retour en classe.
Oui, les élèves du Fénois reprendront les bancs des écoles, collèges et lycées entre lundi et mercredi prochain. Et c'est même déjà la fin des vacances pour les équipes pédagogiques qui ont reçu il y a quelques jours la traditionnelle lettre de rentrée de leur ministre de l'Éducation. Un nouveau ministre, Roni Teripaia, nommé pour porter l'ambitieux programme éducatif du Tavigny. Il promet dans cette lettre de pas moins de 8 pages de ne pas faire table rase du passé, mais fixe tout de même ses grandes priorités, à commencer par une meilleure intégration dans l'école polynésienne de l'identité, de l'histoire et surtout des langues locales, Charlie René.
Oui, c'était un des axes principaux du programme Bleu Ciel en matière éducative et pour le concrétiser, Roni Teripaia veut généraliser la pratique scolaire du Himéné, de la maternelle au lycée, veut travailler directement avec les inspecteurs pour faire entrer davantage dans les programmes la culture, la géographie et bien sûr l'histoire polynésienne des grandes migrations au nucléaire en passant par le fait colonial. L'ancien instituteur premier agrégé du pays en tahitien annonce aussi la création d'une task force d'experts chargés de développer l'école immersive où une partie des enseignements sera directement menée en Reo Maui. Le bilinguisme contribue au développement des élèves, insiste le ministre, qui demande dès à présent aux directeurs de créer un écosystème plus favorable aux langues locales dans leur établissement.
Et beaucoup d'autres thématiques sont abordées dans cette lettre, notamment celle de la réforme nationale des collèges qui s'appliquera bien comme celle du lycée professionnel. Le ministre de l'Éducation veut d'ailleurs développer davantage la filière professionnelle et pré-professionnelle. L'apprentissage, il annonce aussi des heures de cours de soutien et de devoirs dans les emplois du temps, des stages de remise à niveau en fin de vacances. Il insiste aussi sur la lutte contre le cyberharcèlement, Charlie.
C'est même une mobilisation générale qui s'annonce avec des temps de sensibilisation obligatoires dès le début d'année, des programmes d'ambassadeurs contre le harcèlement, de nouveaux dispositifs pour permettre aux victimes de s'exprimer. Les numéros et adresses de signalement seront désormais affichés dans toutes les classes et les lieux de vie scolaire et de nouveaux espaces d'écoute Margaret's Place seront ouverts dans plusieurs établissements. Roni Teripaia en profite pour annoncer une plus grande place de la famille dans le système scolaire, plus que de la coopération parents-prof. Il parle de coéducation, Valdemar.
Et cette lettre de rentrée se termine sur une promesse, celle d'un grand plan Marshall de la rénovation des bâtiments scolaires polynésiens, dont les contours et les financements doivent être annoncés en fin d'année 2023.
En surf, Matai Drolet valide son billet, le main event de la Tahiti Pro.
Oui, 32 surfeurs locaux avaient rendez-vous hier à Teahupo pour les trials de la Shiseido Tahiti Pro. Et c'est donc Matai Drolet, 25 ans, qui a décroché son ticket pour le tour principal. Il rejoint Kaoli Vast et Vahine Fierro après une très belle journée dimanche, car il y avait de très grosses conditions. Et le surfeur de la Presqu'île a remporté donc la compétition après une finale de très haut niveau contre un autre résident du coin, Emeos Zermak. Les deux spécialistes des vagues puissantes ont obtenu chacun un 10 en finale. Ils finissent avec 19,6 points pour Matai, 18,17 pour Aimeo. Deux fois demi-finaliste de ses trials, Matai Drolet en avait été finaliste face à Kaoli Vast l'année dernière. Il a aussi déjà participé au Main Event, c'était en 2019 au bénéfice d'une wildcard. On l'écoute.
Voilà, j'ai des 17 victoires à la commune de Teahupo. Merci beaucoup. C'est vraiment un rêve d'habiter là et juste en face de la meilleure vague au monde. Et ouais, je vais essayer de faire de mon mieux dans le main event et d'aller m'entraîner parce qu'il n'y aura pas les mêmes conditions, je crois, qu'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave et on va donner du mieux qu'on peut avec Kaoli et Vahine.
Et de son côté, le finaliste Aimeos Zermak a tenu à féliciter son ami. Les deux hommes se connaissent très bien, ils sont presque voisins, ils surfent très souvent ensemble. Bon, le finaliste avait tout de même du mal à cacher sa déception d'être passé si près du main event.
C'était incroyable, je pensais que j'allais gagner, mais Matei, moi ça a toujours été un mentor, donc je suis vraiment heureux pour lui en tout cas. Je pense que c'est le meilleur surfeur à Teahupo et que après je suis fier de moi quand même. J'aurais aimé gagner, j'aurais aimé avoir ma place pour la compétition, mais on sait jamais, peut-être que ça peut, on sait jamais.
On ne sait jamais, dit-il, en faisant allusion à une éventuelle invitation de dernière minute. C'est déjà arrivé par le passé en cas d'absence ou de blessure d'un des compétiteurs du circuit mondial. Mais aux dernières nouvelles, tous les pros devraient être de la partie à partir du 11 août, avec donc 3 Polynésiens au total. Attention, les conditions prévues ne seront pas optimales pour nos surfeurs, pas plus que les adversaires qu'ils rencontreront pour leur entrée en lice. Matai Drolet devrait être ainsi opposé au numéro 1 mondial, Felipe Toledo, dès le premier tour. Même chose pour Vahine Fierro, qui sera face à la numéro 1 mondiale, la hawaïenne Carissa Moore. records, en plus de la brésilienne Tatiana Weston-Webb. Kaolivas, lui, fera face au sud-africain Jordi Smith et au numéro 2 mondial Ethan Ewing. Il l'avait éliminé l'an passé pour se hisser en finale de cette même compétition.
Et après la Tahiti Pro, on regarde vers l'épreuve olympique prévue l'an prochain.
Oui, et on vous parle du logement des différentes délégations. Une convention sera signée mercredi entre Lara Nui et les organisateurs des Jeux. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, les athlètes participant à l'épreuve de Teahupo, mais aussi certains entraîneurs et préparateurs des délégations, ne seront pas logés à terre, mais bien sur le bateau de croisière. Le choix de ce cargo n'est pas une surprise de par ses dimensions, ses capacités ou sa disponibilité. Il est rapidement apparu comme le plus adapté des navires basés à l'année en Polynésie pour remplir cette mission olympique. Mais Lara Nui n'accueillera pas à son bord toutes les délégations de cette épreuve, puisque certaines équipes ont préféré prendre les devants. Ainsi, la France, les États-Unis et le Brésil ont déjà réservé depuis de longs mois des logements chez des particuliers ou dans des structures habituées à recevoir des surfeurs à la presqu'île. S'ils ne dormiront pas tous au même endroit, les athlètes partageront en revanche le même village olympique. Il se dressera comme prévu sur le domaine rose après la passerelle en reconstruction du PK0.
Et en sport toujours, direction les Raromatai.
Oui, l'équipe de Shell va s'est imposée samedi sur la H2B Downwind Race, une épreuve de 95 km entre Wahine et Bora Bora, dont elle avait déjà dominé la première édition l'année dernière. L'équipe est arrivée à Bora en 6h39 minutes et 13 secondes, un doublé donc dans cette compétition naissante la plus longue du monde en V6. Mais cette supériorité est toute relative puisque la team Wahine n'arrive qu'à 1 minute et 50 secondes derrière, suivie de près par Ina Raorea, une autre équipe des Raromatai venue elle de Raiatea. L'événement s'est terminé comme prévu après la remise des prix par une after festive. Les fonds récoltés à cette occasion doivent servir à financer la participation du club de Bora aux mondiaux de marathon. C'est prévu ce mois-ci au Samoa, des mondiaux pour lesquels la Downwind a servi de belle préparation.
On reste en mer, mais dans le registre des faits divers.
Oui, le GRCC a dépêché un avion gardien pour rechercher un marin d'un bateau de pêche polynésienne tombé ce week-end à la mer au nord de Rangiroa. Hier, ce sont trois bateaux de pêche, un gardien donc et un autre navire de commerce qui a été dérouté, qui ont balayé une zone d'environ 3000 km². Le disparu n'a pour l'heure pas pu être localisé. Et puis un peu plus tôt dans la semaine, c'est un CASA qui avait été envoyé vers l'atoll de Niao pour retrouver un homme de 37 ans qui se serait a priori fait emporter par une vague dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il pêchait à la canne. Une opération qui là aussi n'a pas permis malheureusement de retrouver le disparu, elle a été interrompue en raison de la météo. Une cérémonie en la mémoire de la victime s'est tenue sur l'atoll samedi.
Et on vous présente cette entreprise Polyyacht.
Oui, la société locale a inauguré un nouvel atelier de production vendredi. Elle est spécialisée dans les haubans textiles en dynéma. Alors ce sont des câbles de gréement plus légers et plus écologiques dont l'entreprise a réussi à industrialiser la fabrication. On écoute Jean Pagny, associé de Polyyacht.
Il y a plusieurs innovations dans notre produit, mais l'innovation principale, c'est la manière dont on va fabriquer. Parce que les haubans en dynéma, ça existait déjà auparavant, mais les techniques de fabrication étaient la plupart du temps artisanales, manuelles, ou alors ils n'arrivaient pas à enrouler le fil dans la gaine, ce que nous, on a réussi à faire. Donc l'innovation, c'est de réussir à enrouler du fil dynéma à l'intérieur d'une gaine de protection pour avoir un hauban qui est complètement protégé de bout en bout directement en sortie de machine. Donc on a réussi à industrialiser le process et on a réussi à le faire en ayant le moins de matière première possible.
Et l'entreprise polynésienne est déjà à l'assaut du marché européen puisqu'elle souhaite rendre accessibles ses câbles à tous les navigateurs.
Notre objectif, c'est de donner accès à n'importe quel propriétaire de voilier à un produit haut de gamme, un produit performant, donc les haubans textiles, qui aujourd'hui sont plutôt réservés à des gens qui vont chercher vraiment la performance et dont les moyens financiers ne sont pas nécessairement un problème. Et ben nous, on a pris ce type de matériel-là et on veut réussir à l'industrialiser, ce qu'on a réussi à faire, pour pouvoir y donner accès à tout le monde à ce produit-là.
Voilà, Jean Pagny, associé de Polyyacht, qui répondait à Lucie Rabréo. L'entreprise qui a également un autre projet en cours, Cocorig. Il s'agit cette fois de remplacer les cordages plastiques utilisés dans les fermes perlières par des cordages naturels en fibre de coco. Un nouveau produit soutenu par le programme Protège et l'ADEME qui devrait être sur le marché dès 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le retour de l'actualité locale, c'est à 7h30 avec la revue de presse. À tout à l'heure, Kevin.
Exactement, à tout à l'heure, Valdemar.